L'un des plus chers espoirs des fervents chrétiens au cours des siècles a été la seconde venue du Christ. Cette espérance repose sur le solide fondement de la parole de Dieu. Quel est le but et la manière du retour de notre Seigneur? Continuant notre étude des livres de la Bible, nous proposons d'examiner cette question. Ces émissions internationales vous sont transmises par l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications Aurore, en collaboration avec les groupes d'études et nos amis dans tous les pays du monde.
Merci Thomas. La seconde venue de Christ fut d'une importance primordiale pour la formation de la première Église. La promesse du retour de Christ contribua dans une large mesure à fortifier la foi et la fidélité des chrétiens dès les premiers jours du christianisme. Thomas, tu as certainement trouvé dans la seconde épître de Pierre beaucoup d'enseignements se rapportant au retour de Christ.
C'est exact, Pierre. L'épître comporte seulement 3 chapitres, et la plus grande partie du premier et presque tout le 3e chapitre sont consacrés à la question du retour de notre Seigneur et à l'établissement du royaume messianique promis depuis si longtemps.
Oui, et dans le 1er chapitre, l'apôtre exhorte à la fidélité par la pratique des vertus chrétiennes, car il dit « C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. »
Et si je comprends bien, Pierre, le royaume en question sera un royaume réel, avec un gouvernement effectif, dont l'autorité s'étendra sur tous les peuples de la terre au cours de 1000 ans.
C'est bien cela. Trop souvent, ce fait est perdu de vue. Et le royaume promis dans la Bible est pour beaucoup considéré comme étant simplement un idéal de pensée, de vertu et de pratique, auquel ceux qui aspirent à la droiture et à la justice s'efforcent de conformer leur manière de vivre. Mais tu sais, le royaume de Christ sera un royaume réel, un gouvernement effectif. À ce sujet, le prophète Ésaïe a écrit « Et la domination reposera sur son épaule, l'épaule de Christ. Il dominera et donnera à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. »
Voulant dire par là sans aucun doute que le royaume de Christ étendra son autorité sur la terre entière. Pierre, en affirmant sa confiance dans le retour de Christ et l'établissement de son royaume, je remarque que l'apôtre dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est ayant vu sa majesté de nos propres yeux, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. »
Cela, Thomas, se rapporte à ce que l'on appelle la vision de la transfiguration, qui eut lieu sur une montagne de Palestine, connue maintenant sous le nom de montagne de la Transfiguration. Jésus monta sur cette montagne, accompagné de Pierre, de Jacques et de Jean. Il fut transfiguré, ou plutôt métamorphosé devant eux. Et là, apparurent avec Jésus, dans la vision, 2 des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse et Élie.
Je ne voudrais pas t'interrompre, Pierre, mais nous n'avons pas appris dans d'autres textes de la Bible que tous les prophètes de l'Ancien Testament se sont endormis dans la mort lorsqu'ils moururent. Ils s'endormirent avec leur père.
Oui, Thomas, c'est bien vrai.
Eh bien, comment fut-il possible à Moïse et à Élie d'apparaître avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration? Cela n'indique-t-il pas, après tout, qu'ils étaient l'un et l'autre bien vivants?
Quand Jésus, avec les 3 disciples, descendit de la montagne, il leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ainsi, d'après les propres paroles de Jésus, nous savons que ce que les disciples avaient vu sur la montagne était une vision et non une réalité. Nous savons aussi que par la suite, Pierre eut une autre vision. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Pierre eut en fait une vision d'animaux impurs. Moïse et Élie n'étaient donc pas réellement sur la montagne avec Jésus. Ainsi que le dit Jésus, les disciples eurent simplement une vision de Moïse et d'Élie.
Merci, Pierre. Certainement, l'explication de Jésus se rapportant à cette question me satisfait entièrement. L'apôtre, ainsi que nous l'avons vu, déclare que ce fut une vision du royaume, ou plutôt, comme il le dit lui-même, la puissance de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Du point de vue du royaume, que signifiait l'apparition de Moïse et d'Élie?
Moïse et Élie furent naturellement deux des prophètes les plus représentatifs de l'Ancien Testament. Leur apparition dans la vision semblerait suggérer que le témoignage de tous les saints prophètes de Dieu concernant le royaume sera accompli, reliant la loi et les prophètes à la fois, car Moïse fut le grand législateur qui était un type de Christ.
Pierre, ce fut certainement une démonstration émouvante pour Pierre, Jacques et Jean, très convaincante aussi. Après cela, l'apôtre pouvait dire, en effet, qu'il ne suivait pas des fables habilement conçues en parlant de la puissance et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il savait que sa foi reposait sur un inébranlable fondement de fait.
Certainement, Thomas. Cependant, l'apôtre explique que les chrétiens ont des preuves encore plus sûres que les visions en ce qui concerne le retour de Christ et l'établissement de son royaume. Il dit « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. »
Que veut dire l'apôtre par la parole prophétique certaine?
La parole prophétique certaine à laquelle fait allusion Pierre est le témoignage prophétique en entier de l'Ancien Testament, se rapportant à la seconde venue de son royaume. Elle comprend aussi la merveilleuse prophétie de Jésus rapportée par Matthieu au chapitre 24 et concernant la manière et les signes de son retour.
Je crois me rappeler que Jésus formula cette prophétie en réponse à la question de ses disciples. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ta présence et de la fin de l'âge. » Est-ce exact?
Oui. Et le mot utilisé dans cette question qui est traduit par « venu » ou « avènement » signifie en réalité « présence ». Les disciples ne demandèrent pas des signes leur annonçant que la venue de Christ était proche, mais ils voulaient savoir comment ils sauraient qu'il était réellement présent. Aussi, la prophétie de Jésus, en réponse à cette question, est-elle une sorte de résumé de ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient écrit à ce sujet, et par conséquent, une partie très précieuse et concluante de la parole prophétique certaine.
Pierre, dans cette question que les disciples posèrent à Jésus, ils voulaient connaître quels seraient les signes de la fin du monde. Comment Jésus pourrait-il être présent si le monde n'existait plus?
Dans cette question, les disciples employèrent le mot grec « aion », signifiant « âge », et non la terre ou monde. Ils ne s'intéressaient pas à la fin du monde, mais à la fin de l'âge. L'apôtre Pierre a beaucoup plus à dire à ce sujet, et nous pourrons en parler la semaine prochaine. La parole prophétique certaine à laquelle il se réfère donne beaucoup plus de détails concernant la fin de l'âge.
Je remarque dans son allusion prophétique, l'apôtre recommande d'y prêter attention jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Que veut dire cela? Pourquoi parle-t-il du jour qui doit apparaître, en d'autres termes, de l'aube du jour?
Eh bien, la Bible compare la longue période du péché et de la mort à une nuit. Une nuit pendant laquelle, comme l'a écrit le prophète Ésaïe, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde les peuples. De son côté, le prophète David a écrit « Les pleurs logent le soir, mais le matin c'est un chant de triomphe. » Dans la Bible, le péché, les souffrances et la mort sont associés aux ténèbres, tandis que la lumière symbolise la justice, la santé et la vie, joie.
Et le matin de joie prédit par David doit-il paraître avec la seconde présence de Christ?
Oui, exactement.
Alors ce seraient les premières heures du matin de ce nouveau jour auquel se réfère l'apôtre lorsqu'il parle de l'aube du jour.
C'est ainsi que je le comprends, Thomas.
Eh bien, l'apôtre nous donne vraiment une merveilleuse espérance. Mais je remarque encore, Pierre, qu'il emploie une autre expression. Il nous exhorte à prêter attention à la parole prophétique certaine jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Qu'est-ce que l'étoile du matin?
Dans le dernier livre de la Bible, Jésus est appelé l'étoile du matin. L'apôtre emploie ce titre symbolique pour associer le retour de Christ avec l'aube du nouveau jour de la terre, le jour du royaume, lorsque la justice sera établie sur la terre et que les bénédictions de paix, de joie et de vie se répandront sur toutes les familles de la terre.
Je me rappelle maintenant que dans la prophétie de Malachie, il est question du soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Cette prophétie doit être aussi associée à l'aube du jour nouveau, le jour du royaume, n'est-ce pas, Pierre?
Oui, le symbolisme de l'étoile du matin s'applique pour ainsi dire plus particulièrement aux premières lueurs du jour, tandis que celui représenté par la figure du soleil de justice aura son accomplissement pendant le règne effectif du royaume, lorsque les pouvoirs de guérison de Christ s'étendront à tous les humains qui voudront bien accepter et obéir aux joies du gouvernement divin.
Vraiment, Pierre, il est merveilleux de comprendre quelle grande bénédiction le retour du Seigneur apportera au genre humain. Il n'est donc pas étonnant que l'espérance de son retour ait éveillé et entretenu dans le cœur des chrétiens de la première Église de tels sentiments de ferveur et de fidélité.
Et cela d'autant plus, Thomas, que les apôtres, sauf Paul, avaient connu personnellement Jésus. Ils croyaient qu'il était le Messie et qu'il établirait le royaume messianique promis. Mais il leur fut enlevé et crucifié. Et après qu'il fut ressuscité des morts, il ne demeura que peu de temps avec eux. Ils croyaient cependant qu'il reviendrait, et qu'ayant souffert et étant mort pour le monde, à son premier avènement, il accomplirait toutes les merveilleuses promesses de son royaume pendant les 1000 ans de sa seconde présence.
L'on ne peut certainement que partager leur point de vue. Pierre, que voulait dire l'apôtre par « prêter attention à la parole prophétique certaine » ?
Simplement que la parole prophétique certaine était tout ce que les fidèles chrétiens auraient au cours des siècles à venir pour leur permettre de discerner le moment et la manière de son retour. Ils devaient tenir compte des prophéties, observer attentivement les événements survenant autour d'eux dans le monde. Avec la conviction qu'au temps marqué de Dieu, le jour du Seigneur ne les surprendrait pas comme un voleur.
Eh bien, où en sommes-nous actuellement? Est-ce que d'après la parole prophétique certaine, il apparaît à ceux qui voient par les yeux de la foi que les événements mondiaux du temps présent peuvent être considérés comme étant significatifs et ayant quelque rapport avec le retour de Christ?
Très certainement, Thomas. Ainsi que cela est expliqué dans la brochure « L'espérance du chrétien ». Thomas, veux-tu dire à nos amis quelques mots au sujet de cette brochure?
Avec plaisir, Pierre. Amis, la brochure « L'espérance du chrétien » est la 9e d'une série de publications consacrées à l'étude des livres de la Bible. Cette dernière se rapporte aux épîtres des apôtres Jacques, Pierre, Jean et Jude. Elle vous aidera à mieux comprendre et approfondir l'enseignement donné par ces épîtres. N'hésitez pas à en demander un exemplaire gratuit. Voici quelques-unes des questions traitées dans cet ouvrage. Que veut dire la Bible par le salut des âmes? Qu'est-ce que le salut? Ceux qui meurent incroyants auront-ils une opportunité de salut au jour du jugement? Qu'est-ce que le jour du jugement? Les vivants peuvent-ils parler avec les morts? Qu'est-ce que la fin du monde prédite? Elles sont quelques-unes des questions auxquelles répond scripturalement la brochure précitée. Demandez la brochure chrétien. Cette émission, se rapportant à l'étude de la Bible, vous a été transmise par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore. Nous serons encore avec vous la semaine prochaine à la même heure. Faites-en part à vos amis, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse tous.